France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on va parler de musique, évidemment, mais surtout de ce qui se passe autour de la musique. Les concerts, les salles, les tournées, les festivals, les billets, bref, le live. Ce moment collectif devenu central dans nos vies culturelles. Depuis plusieurs années, un homme est au cœur de cette transformation en France. Un homme qui a vu le hip-hop naître dans les salles, grandir dans les zéniths, puis conquérir les stades. Un homme qui a commencé par coller des affiches, organiser des soirées, produire des concerts de rap et qui dirige aujourd'hui la filiale française du leader mondial du spectacle vivant. Cet homme, c'est Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France. Avec lui, on va parler d'une actualité brûlante, le rachat de Paris La Défense Arena, la plus grande salle indoor d'Europe, le retour du Midem à Cannes qui fête ses 60 ans et une année 2026 qui s'annonce historique avec des centaines de concerts et des millions de spectateurs. Mais au-delà des chiffres et des annonces, on va surtout essayer de comprendre comment on fabrique aujourd'hui le live, pourquoi les concerts sont devenus si importants, pourquoi ils coûtent plus cher et comment on concilie passion, économie et responsabilité culturelle. Angelo Gopé est l'un de ceux qui ont accompagné et parfois provoqué ces mutations. Ce soir, il est avec nous pour les raconter, les expliquer et les discuter. Bienvenue dans La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, Angelo ?
Ça va bien ? Merci de me recevoir, Mehdi.
Bah, merci d'être là. Ta parole est assez rare, mine de rien.
C'est vrai.
Mais tu parles pas tant que ça.
C'est d'abord les artistes, après moi.
Bon. Mais t'as été artiste.
J'étais artiste.
On va en parler, on va retracer un petit peu ton parcours après. Mais sur l'actualité chaude, en tout cas, toi, tu as commencé en collant des affiches. C'est comme ça, en faisant ce qu'on appelait le street marketing, finalement.
On a commencé en faisant des après-midi.
Exactement.
C'est-à-dire qu'avant même de faire des soirées, on a commencé les après-midi parce qu'on n'avait pas d'argent.
Ouais, quand vous étiez tout jeune, en fait.
Ouais, tout à fait. Et on n'avait pas le droit de sortir, donc on faisait des après-midi dans les collèges.
Aujourd'hui, tu diriges Live Nation France, on va en reparler un petit peu après. Et la grosse actualité brûlante, évidemment, c'est l'achat, en tout cas, de la Défense Arena, qui fait 45 000 places, hein,
tout à fait.
Avec, j'imagine, d'énormes ambitions derrière ça. Comment Live Nation, qui est donc... vous vendez des concerts toute l'année, comment, pourquoi vous avez voulu racheter cette salle?
C'est une opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, on a la plus belle, la plus grande salle d'Europe qui est en France,
ouais.
Qui est à Nanterre, qui est à Paris,
ouais.
Qui est dans la région Île-de-France. Et aujourd'hui, il y a eu le projet d'un entrepreneur qui s'appelle Jacques Lorenzetti, qui l'a construit il y a 10 ans. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution qu'il y a dans la musique, dans le divertissement, dans le sport, il y a matière à faire... plusieurs choses, d'autres choses, plus ambitieuses, plus importantes. Il faut réajuster la salle, refaire des ajustements techniques dans le grill, dans les loges, dans l'accueil du public. Et donc, du coup, c'était une très bonne opportunité. Et je pense que, en tout cas, pour Paris et pour la France, c'est bien de l'avoir parce que on voit dans nos métiers, dans le métier qu'on fait aujourd'hui, dans les concerts, il y a un impact artistique parce qu'on va voir un concert, on va voir son artiste préféré sur scène. Mais derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent, il y a des impacts économiques,
ouais.
Qui sont assez conséquents. Et je pense qu'aujourd'hui, la France et Paris a besoin de se redonner économique. Quand on voit tout ce qui se joue depuis quelques jours au Parlement et qu'est-ce qu'on fait de l'argent, où on en a. Il y a des concerts qui ont des retombées économiques qui sont assez conséquentes. On a vu qu'on a fait Beyoncé l'année dernière sur 3 jours de concert, c'était entre 150 millions et 200 millions de retombées économiques pour la région, pour la ville de Saint-Denis. Et là, c'est pour la ville de Nanterre. Et je pense que c'est des choses qu'on peut pas laisser tomber de côté. Et c'est des choses qui vont nous permettre d'avancer tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, notre impact à nous, il est lié aussi à l'impact économique et social. Et je pense que c'est important. Il y a une opportunité comme celle-ci. Fallait pas la laisser passer.
En introduction, je parlais de responsabilité culturelle. Et c'est vrai que, très bêtement, pour moi, t'es dans le divertissement, y a des concerts ou des événements sportifs. Mais en fait, effectivement, en t'entendant, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi t'es évidemment de très près, t'es connecté aux enjeux politiques, économiques. Tout ça forcément va impacter ton travail. Est-ce que, justement, quand je parle de responsabilité culturelle, ça te parle, toi? Est-ce que tu penses que vous avez un rôle à jouer là-dessus?
Moi, je pense qu'en dehors de... On a la responsabilité tout court, et pas que culturelle. Elle est sociale, elle est économique, elle est artistique. C'est à tous les niveaux, elle n'est pas que culturelle. Aujourd'hui, tu vois que nous, on crée des formations pour les jeunes défavorisés, pour pouvoir accéder au métier de la musique. Donc aujourd'hui, on fait une formation où on donne la chance à 15 jeunes d'avoir un diplôme de technicien de spectacle, qui n'existe pas aujourd'hui. Mais ces gens-là...
Quand tu dis nous, c'est Live Nation.
Live Nation. Ouais. Ça nous coûte 120 000 euros par an. On le fait. on le fait parce que c'est important. Et on ne peut pas laisser à l'as, aujourd'hui, la culture, des gens qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas de réseau. Parce que la culture, c'est un réseau. C'est pareil, on donne des bourses à des gens pour demain être producteur de spectacle, être manager, être directeur de festival, directeur de salle. Donc on a créé un programme avec, avec les ICAR, et pendant 586 heures, on vient aider des jeunes aujourd'hui à se former, et surtout des jeunes qui n'ont pas accès à des diplômes supérieurs parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc je pense qu'on a une responsabilité tout court, quelle qu'elle soit, et on n'en parle pas assez.
Alors là, on parle de la Défense Arena qui est une énorme salle, et alors si on parle vraiment... pas que, mais en tout cas du milieu du rap, il y a eu une forme de course là, presque même de surenchère, aux énormes salles, voire même plus aux salles, aux stades. Et ça, il y a beaucoup de choses qui se disent parfois, notamment quand on parle des gros artistes rap, c'est que maintenant Bercy c'est devenu une petite salle pour beaucoup de rappeurs. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose que les artistes jouent dans des salles de plus en plus grandes, voire même quittent parfois les salles pour aller dans des stades qui sont pas toujours, j'imagine, tu sais ça mieux que moi, mais faits pour justement qu'on y joue de la musique en termes de son, en termes de qualité, en termes même d'accessibilité, de proximité avec les spectateurs?
Je pense que tout dépend de la proposition artistique de l'artiste. Tu as des artistes aujourd'hui, on a fait Chris Brown à la Défense Arena et Kendrick Lamar, c'est incroyable.
J'étais là pour Kendrick Lamar.
Parce que le spectacle était adapté pour la salle. Donc aujourd'hui, quand on va quelque part, on doit adapter. Que ce soit une petite salle, une moyenne ou une grande, on doit adapter. Si on ne l'adapte pas, il risque d'avoir un malentendu avec les spectateurs qui ne vont pas s'y retrouver. Donc aujourd'hui, Kendrick, il a fait une tournée de stade, donc on ne pouvait pas le mettre à la Core Arena. Il ne voulait pas aller dans un grand stade parce qu'il voulait quelque chose qui soit moyen. Donc la Défense Arena, c'est cette opportunité aujourd'hui entre 15 000 et 70 000 de faire des concerts. Mais aujourd'hui, il y a une obligation artistique importante. C'est-à-dire que quand on va devant un public, on se présente, il faut qu'on se présente avec la meilleure qualité. La meilleure qualité scénographique, la meilleure qualité de lumière, la meilleure qualité de son. Et parfois, il y a pu avoir des malentendus ou des choses qui n'étaient pas faites. Et c'est pour ça que quand on fait des concerts, il y a vraiment des vraies études à faire. Lorsqu'on a fait Vald, à Défense Arena,
récemment,
on a fait une vraie étude acoustique pour être sûr que tout le monde dans la salle ait du son. Donc on a accroché un peu partout du son. On a fait une vraie étude acoustique. Donc je pense que c'est un vrai travail minutieux qui doit être mis en place. Et aujourd'hui, nous sommes devant un secteur qui est croissant. La musique, depuis 10 ans, depuis la démocratisation, l'accessibilité à la musique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 15 ans, la musique, c'était la radio ou la télévision.
Tout à fait.
Il n'y avait pas de digital. Les plateformes sont arrivées, les réseaux sont arrivés.
Il y a exactement 10 ans, parce que c'est en 2016 que les plateformes de streaming sont prises en compte dans les ventes.
Et c'est en 2016 qu'il a commencé à avoir l'explosion du hip-hop.
Absolument.
Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est lié. Donc cette consommation exacerbée de la musique, elle a servi au rap, il y a 10 ans.
Ouais.
Elle a servi à la frose, quelques années après.
Ouais.
Elle a d'abord servi à la K-pop, parce que la K-pop ne passait pas dans les médias. Et la K-pop, aujourd'hui, remplit des stades.
Exactement.
Et maintenant, vous avez l'artiste le plus écouté au monde, il s'appelle Bad Bunny, il est portoricain. Donc, ça a servi à tout le monde. Donc, il n'y a plus 1000 personnes qui écoutent un artiste, il n'y en a plus 10 000, il n'y en a plus 100 000, il y en a des millions. Donc, quand on fait un concert, forcément, y a de plus en plus de demandes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on peut le voir, quand tu fais Bruno Mars, t'as 600 000 personnes qui veulent faire la queue quand tu peux vendre que 200 000 places. Donc, cette consommation-là, cette accessibilité à la musique, c'est aujourd'hui, les gens écoutent de plus en plus de musique. Et ça a été beaucoup plus pendant le Covid, parce que les gens n'ont fait que ça. Ils n'avaient que ça à faire. Donc, en famille, ils ont écouté de la musique, ils ont écouté du rap, pas du rap. Les parents ont fait écouter leur musique d'enfance aux jeunes. Les jeunes ont fait partager le rap avec leurs parents. Et on s'est retrouvé avec des artistes aujourd'hui qui sont ressortis parce qu'on ne les écoutait pas avant. Et on a fait Red Hot Chili Peppers à la sortie du Covid. On passe d'un Parc des Princes à deux Stades de France. Oui, on est les meilleurs producteurs en France. Mais en même temps, les gens écoutent de plus en plus de musique. Donc il y a une demande aujourd'hui qui est assez conséquente. Et après, il faut vraiment, je pense, être assez honnête par rapport à la promotion artistique pour faire celle qui est de mieux dans une salle et dans un stade. Parce que la problématique...
Parfois, il y a aussi beaucoup d'ego de la part des artistes. J'ai le sentiment qu'ils veulent faire un Stade de France ou une Défense Arena sans forcément avoir le spectacle pour le faire.
Et la problématique, elle est là. C'est de se dire aujourd'hui, mais c'est pareil quand tu fais un Accor Arena. Si tu fais un Accor Arena avec une production d'Olympia ou de Zénith, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il faut adapter aujourd'hui sa production. L'ego, c'est très bien, mais après le concert, il y a une carrière. Et la carrière, elle doit durer encore 3, 4, 5 ans. Quand on déçoit à l'instant T, on perd après les fans qui vont venir au concert.
Quand tu dis on est les meilleurs producteurs en France, il y a une compétition ?
Il n'y a pas de compétition.
C'est-à-dire parce que pour toi, vous êtes les numéros 100 en discussion ou parce que tu ne réfléchis pas comme ça ?
Parce que pour moi, je fais un métier. J'ai une ligne de conduite depuis que j'ai repris la Nation il y a 16 ans. J'avance et c'est l'histoire de ma vie. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Quand on vient des quartiers aujourd'hui, on n'a pas de seconde chance. Donc on avance, on fonce et on trace. Après, on regarde.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau d'une artiste que tu connais, je crois, Rosalia, qui a sorti un album extrêmement important cette année, qu'on a eu la chance d'ailleurs de recevoir dans cette émission. On va écouter donc, cet album s'appelle Lux, et on va écouter le morceau La Perla, donc est extrait de ce tout dernier album de Rosalía, qui a marqué l'année 2025.
¿Me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de breath. Si le pides ayuda, desaparece.
Rosalía, donc La Perla, extrait de son dernier album Lux, qui, comme le disait Angelo Hoff, a bouleversé l'année 2025.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Qui sera d'ailleurs prochainement en concert chez nous, Rosalía. Justement, les concerts est quand même un sujet. Moi, j'entends beaucoup parfois de remarques sur les prix des concerts, tu sais. Et concrètement, c'est une réalité. Les billets sont plus chers que dans le passé. Je scrollais ce week-end sur les réseaux et je voyais une vidéo de Kurt Cobain qui réagissait sur une émission. On lui disait combien coûtait un concert de Madonna. À l'époque, ça coûtait $50. Alors, à l'époque, Madonna était déjà peut-être même la pop star numéro 1, en tout cas, ça se discutait. Et il était choqué par le prix parce que lui, leader de Nirvana, pratiquait des prix beaucoup moins élevés. Comment t'expliques le fait que les concerts soient devenus beaucoup plus chers que dans le passé?
Je pense que déjà, il faut qu'on arrive à faire le tri par rapport aux concerts. Ouais. Parce que les gens ne parlent que des grands concerts.
C'est vrai.
On ne parle que des concerts au Stade de France, on ne parle que des concerts à l'Accor Arena ou à la Défense Arena. Comme j'expliquais avant, quand les artistes aujourd'hui qui sont ambitieux, qui viennent avec des shows qui sont conséquents, justement pour Kendrick, il y avait je crois 40-45 camions. Donc on a travaillé pendant 3 jours pour monter la scène. Donc il y a quasiment 700 personnes qui ont travaillé. Donc tout ça,
ça coûte
forcément,
cher.
Ça a un coût. Et donc du coup, de ce fait, les billets coûtent plus cher. Mais notre métier aujourd'hui, il consiste à développer des artistes. 65 à 70% de concerts sont des artistes émergents et des prix de billets entre 25 et 40-45 euros. On n'en parle pas. Tu vois, j'ai fait un post il y a au mois de décembre, novembre, parce qu'on a fait un artiste qui s'appelle Eric Bennett, qui est l'une des stars de R&B.
Absolument.
39 euros le concert. Une heure et demie. Il a fait du Marvin Gaye, il a fait du Al Green, il a fait de la soul, il a rendu hommage à ceux qui sont morts, il a fait son choix à lui. C'était une soirée qui était magique. Des concerts comme ça, il y en a tous les jours. Et on n'en parle pas. Donc oui, il y a des concerts qui sont chers. C'est une infime partie. Mais aujourd'hui, le sport est beaucoup plus cher que la musique. Tu prends la Ligue des Champions, le plus petit prix des places, il est à 200 euros. Mmh. Et ça monte à 700. Personne ne se pose des questions. Donc oui, bah forcément, c'est sujet au coût. Si le coût de la vie aujourd'hui a augmenté, on n'a pas le choix. Il faut savoir qu'entre le début du Covid et la fin du Covid, le coût des matériels a augmenté de 30 à 50% sur la musique. Donc aujourd'hui, t'imagines, si on avait impacté le même coût de la vie et du matériel sur les concerts, on aurait augmenté les billets de 30 à 40%, ce qu'on n'a pas fait. T'imagines qu'avant le Covid, on a une tournée qui est sur la route. Le coût de plateau, c'est ce que te coûte aujourd'hui un artiste par jour.
Ouais.
C'est-à-dire le son, la lumière, le personnel, tout ce que te coûte.
Ouais.
La même tournée, en 2019, coûtait 48 000 euros. Post-Covid, elle a coûté 88 000 euros. La même chose.
Pourquoi ?
Le même son, la même lumière. Parce qu'entre-temps, l'Ukraine, augmentation des matières premières, augmentation du carburant. Donc, un camion avant que tu payais 1 500 euros par jour, tu le payais 2 500, voire 3 000. Donc, quand tu as 8 camions et que tu as une augmentation de 2 000 euros par camion, ça fait 16 000 euros. Les bus étaient entre 1 500 et 2 000 euros. Ils sont passés à 4 000 euros le bus. Donc, quand tu as 6 bus, bah, ça te fait 12 000 euros. Ben l'un dans l'autre, il y a des coûts qui sont conséquents et on n'a pas impacté sur le billet.
Donc sur les, c'est logique du coup que sur les gros concerts, le billet augmente, mais sur les plus petits concerts, toi tu nous dis qu'il n'y a pas eu de grosse évolution ces dernières années.
Ça a pris 2, 3, 4 euros, mais tu vois les concerts qu'on fait aujourd'hui aux Étoiles, la Maroquinerie, ouais, au Casino, c'est 20, 25 euros, 30 euros. Ce sont eux les artistes de demain. Et c'est notre métier, nous, c'est de les développer. Donc, tu vois, moi j'ai développé des artistes qui sont aujourd'hui au stade. Quand j'ai commencé avec Kanye West, on a commencé au Trabendo.
Bien sûr, c'est vrai.
Et il avait son sac à dos sur le dos.
Absolument.
Son clavier, c'était John Legend. Ouais, le prix du billet était à 27 euros à l'époque.
Donc, oui, tu vois,
Donc, c'est une évolution qui est tout à fait normale. On ne peut pas exacerber aujourd'hui les grands concerts parce qu'ils sont chers. Mais en même temps, il y a du spectacle. Quand tu vois aujourd'hui, on a fait David Guetta. C'est le spectacle incroyable. Le spectacle incroyable. Donc, il faut donner à ces artistes aujourd'hui la possibilité de pouvoir investir sur leur spectacle.
Je l'ai dit en introduction, le Midem revient à Cannes du 4 au 7 février 2026 et fête ses 60 ans. Quel est le lien entre Live Nation et le Midem aujourd'hui ?
Il y a 2 ans, on a répondu à un appel d'offres de la mairie de Cannes parce que, comme j'ai expliqué, la musique a été bouleversée depuis plusieurs années. Donc, pendant 58 ans, le Midem, c'était la musique enregistrée. C'est-à-dire qu'avant, quand tu sortais ton album ou ton disque, tu venais à Cannes et tu le vendais aux Espagnols, aux Portugais, aux Hollandais. C'était pas comme maintenant. Maintenant, tu mets un titre sur les plateformes, c'est partout.
Exactement.
À l'époque, non. Ils sortaient chez toi et pas ailleurs. Donc, les gens venaient vendre leur musique. Lionel Richie qui devait faire des showcases, Steve Wonder qui a fait des showcases. Tout ça était gratuit. C'était la grande époque du Midem avec tous les plus grands artistes. Aujourd'hui, le milieu a un peu changé, puisque la musique enregistrée n'est pas du tout aussi dominante que ça. Mais la musique et la filière musicale est conséquente. Parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est 35 milliards d'euros par an, une augmentation de 8% tous les ans, et qui va continuer sur les prochaines années. Comment on fait aujourd'hui, en tant que producteur de spectacles, de disques, d'éditeurs, de salles, de festivals, d'artistes, de médias, comment on fait pour aider au mieux les artistes? Comment on fait pour, ensemble, s'associer, imaginer, créer, partager et discuter pour qu'on soit ensemble pour ces prochaines années et que les artistes français, par exemple, vous voyez ce qui se passe avec Trump aujourd'hui. Avant, on mettait 2 mois pour avoir un visa pour les États-Unis, maintenant on met 5 mois, 6 mois, quand on l'a. On fait quoi maintenant? Les artistes, ils vont plus aux États-Unis. On a une alternative en France et on a une alternative avec l'Europe. Les artistes aujourd'hui, ils peuvent aller jouer en Pologne, ils peuvent aller jouer en Hongrie, en Suède, au Portugal, en Espagne. Comment on fait pour créer ce réseau, pour répondre aujourd'hui à ce qui se passe aux États-Unis et pour se dire qu'on est assez fort, on a une filière européenne qui est très forte et qu'on va se poser les bonnes questions pendant ces 3 jours. On a des gens qui viennent parler, on a Antoine Taverneau qui vient de parler, qui est le patron d'Auditoire, ouais, qui va expliquer aujourd'hui parce qu'Auditoire fait en France les Jeux Olympiques, la Citroën, la Music Week qu'ils ont fait la semaine dernière. On a Sharon Osbourne, qui est la femme d'Ozzy Osbourne, qui vient prendre la parole et qui va expliquer comment elle a monté ce show à Birmingham au mois de juillet en l'honneur de son mari, où tous les artistes rock du monde sont venus lui rendre hommage, et il est décédé 2 mois après. Et elle va venir expliquer ça. On a Laurent Bounot qui va venir parler aujourd'hui de la place du rap dans la musique, et ce que ça va être plus tard. On a David Zedek, patron du Tuer. On a plein de gens qui viennent pendant ces jours-là pour venir donner envie aux jeunes d'être dans la filière. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va donner aux jeunes demain? La transmission aujourd'hui, elle est cruciale. Parce que quand tu prends les producteurs de spectacle, ou même les autres, il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de relève parce qu'on n'a pas transmis. Mmh. On a voulu rester en ce temps. Moi, je veux transmettre. Je veux qu'il y ait demain plus de producteurs. Je veux que les gens vivent de la musique. Il y a Luigi qui a une phrase qui est intéressante.
Le
qui dit,
rappeur.
Ouais. Avec 5000 albums vendus, du merch et des concerts, tu vis de ta musique.
C'est vrai. C'est vrai qu'il dit ça.
Donc nous, on va expliquer comment on peut le faire. Comment aujourd'hui un artiste peut, avec on a cette chance d'avoir des plateformes qui n'existaient pas avant. On a de plus en plus de concerts. On a un circuit en France de salles qui s'appelle les SMAC, où on peut venir jouer quand on a un artiste émergent qui n'existe pas dans le monde entier. On a des festivals aujourd'hui qui sont subventionnés, où les artistes peuvent aller évoluer. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils à disposition. Comment nous, aujourd'hui, on peut accompagner les artistes? Parce que s'il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de maison de disque. Donc on doit aujourd'hui être autour d'eux et se dire qu'on va ensemble travailler pour mettre en avant beaucoup plus d'artistes, pour que demain on ait beaucoup plus d'artistes en festival, beaucoup plus de femmes sur les scènes.
Angelo Gopé, boss de Live Nation France, est avec nous jusqu'à 23h. Alors, Angelo, qu'est-ce qu'il y a?
Là, je disais...
Dis-moi.
Non, je disais, oh, t'es un mytho, on se rend plein PSG.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a le match du PSG, effectivement.
Il y a l'histoire de PSG.
Alors, il faut quand même qu'on remonte un peu dans le temps. Ouais. Parce que tu n'es pas devenu boss de Live Nation par hasard. Il y a un parcours avant, notamment, tu faisais partie d'un collectif, IZB, dans les années 80. On ne va pas tout refaire, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été organisées. Et notamment, tu as participé à l'organisation d'un concert mythique, pas qu'un, mais notamment un au début des années 90, c'est celui de Public Enemy.
Public Enemy en concert au Zénith à Paris. C'était un événement attendu et redouté. Il y avait comme une odeur de soufre dans l'air. Reportage Pascal Deschamps et Frédéric Basile pour les images.
Pour les jeunes des cités de banlieue, Public Enemy, c'est d'abord un produit de la discrimination raciale aux États-Unis, ce qui ne les empêche pas de rapper avec eux et d'aimer ça.
Pas la violence, hein, pas la violence, c'est la haine que les gens peuvent ressentir tous les jours dans le ghetto à New York, vous comprenez ?
Si on vient s'éclater, c'est pas pour foutre la merde et emmerder notre monde, c'est tout.
Et au-delà des polémiques, Public Enemy a prouvé hier soir qu'il était l'un des meilleurs groupes rap du moment.
C'est un extrait d'un reportage d'Antenne 2 à l'époque. Comment c'était d'organiser, de faire venir Public Enemy au moment où vraiment, voilà, Public Enemy est un groupe, évidemment un groupe mythique encore aujourd'hui, mais à l'époque c'est des superstars, ils changent, ils bouleversent le rap et même la musique mondiale. Comment ça se met en place?
C'était en collaboration avec les producteurs avec qui on travaillait à l'époque, des gens de l'Élysée Montmartre, et on les a déjà fait avant, mais ce concert-là est venu après l'album Fear of a Black Planet.
Ouais. C'est un classique.
Voilà. Donc les gens ont pensé que les Noirs allaient tirer sur les Blancs. Donc on avait le soir du concert, tous les médias qui étaient aux Zénith qui étaient présents. On a fait une conférence de presse, la salle était noire de journalistes. Mais on est fiers. On est fiers parce qu'on donne de la visibilité au rap. Après, que ce soit fureuse ou pas, on s'en moque. Ce qui est important, c'est qu'on parle enfin de notre musique, qu'on parle enfin de notre culture, qu'on donne la parole aujourd'hui à des jeunes. Comme il l'a expliqué, les jeunes, ils sont venus positivement. Ouais. Parce que le rap et le hip-hop, c'est positif.
Comment ton premier amour avec le rap ou le hip-hop, est-ce que tu as un souvenir de ça? Il naît comment?
Le hip-hop, ça a commencé par de la danse. Il faut savoir qu'il y a eu des phases dans le hip-hop. Tu as d'abord eu les DJ et la danse. C'est ce qui a commencé par ça. Après, il y a eu... les MC, qui sont venus aujourd'hui raconter les vies de quartier, qui n'étaient pas des rappeurs.
Tout à fait.
Qui étaient des MC.
Des maîtres de cérémonie.
Exactement. Ouais. Et ils faisaient des concerts habillés en cuir, avec des chapeaux de cow-boy. on voit Sugar Hill Gang, Manimel. Ouais. Et nous, on a été embarqués là-dedans parce qu'on vit dans des quartiers, qu'on avait besoin de ce courant qui arrivait. On danse par terre. Et nous, on est des gens du 93. Donc on est plutôt funky au départ, on est soul funky. Et c'est les gars de notre quartier qui nous ont fait écouter cette musique qui a commencé à arriver. Et on a commencé à les présentations, on a commencé à danser. Après il y a eu l'émission de Sydney qui arrivait aussi, qui passait à TF1.
HIP, voilà. En 84.
Big up à Sydney, big up à Laurence Suidou qui a été la productrice de l'émission. Il y a Sophie Bramley qui est venue plusieurs fois encourager Sydney. Et on s'est retrouvés là-dedans et on s'est dit, mais avec mes cousins, on se voyait à la maison et puis on breakait. Donc... IZB, au départ, c'est quatre cousins. Et c'est parti de ça, de danser le dimanche après-midi qu'on se voyait. Après, c'est devenu un collectif, parce qu'on a tissé Paris, la banlieue parisienne. Et après, on a tagué, parce que c'était la deuxième vague après le hip-hop. Et après, on est devenu rappeur, parce qu'il fallait être rappeur. Par opportunité, on a commencé à organiser des soirées, des concerts.
Et il faut que tu... Alors, je vais un peu vite, mais il faut que tu me racontes comment tu te retrouves à travailler sur un classique du rap californien, Regulate, a G-Funk Era. These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. Donc morceau de Ned Dogg, enfin de Warren G et de Ned Dogg, classique s'il en est. Comment ça se passe? Comment tu te retrouves à travailler chez Def Jam?
Public Enemy, hip-hop, rap, tag. Et Pascal Nègre, qui à l'époque à la tête de Phonogramme.
Ouais.
M'appelle et me dit...
Parce que t'es dans le milieu, t'organises des soirées, c'est ça?
Parce que j'ai... Non, surtout parce
des
que...
Des événements.
Et surtout parce que j'ai révolutionné le marketing.
Avec vous... ce qu'on disait au début, le fait de...
Le street marketing. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à faire de la bombe au sol, des tracts, des affiches. Et on lui a dit, mais le spécialiste rap en France, il faut que t'appelles Angelo. Donc lui, il était chez Phonogramme.
Pardon, excuse-moi, ça veut dire que toi, parce que c'est passionnant, t'avais cette vision à l'époque. Est-ce que tu te voyais déjà comme un entrepreneur ou t'étais juste... Ouais, pas du tout. T'étais juste un passionné qui avait des idées, quoi.
Passionné avec des idées, il fallait promouvoir nos concerts. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On est des taggeurs. Donc tu prends, à la place de ta bombe et ton marqueur, tu prends comment on appelle ça déjà? Un pinceau. Et une affiche, c'est exactement pareil.
Ouais.
Donc tu vois, on a recouvert les murs d'affiches au lieu de les recouvrir de tags. Donc Pascal m'appelle, il me dit bon, il paraît que t'es l'incontournable au niveau rap. J'ai récupéré un label qui s'appelle Def Jam. Est-ce que ça t'intéresserait de venir? Donc lui, je suis venu. Et au moment où je suis venu, il a été nommé à la tête de Polygram à l'époque. Donc je me suis retrouvé avec lui, le patron de Phonogramme qui était Yann-Philippe Blanc. Et m'ont fait la blague quand je suis arrivé, t'imagines Pascal Nègre qui signe un noir avec Yann-Philippe Blanc, qui est décédé entre temps, paix à son âme. Ouais. Et il m'a dit, comment tu vois les choses? Je dis, mais Def Jam, tu peux pas me demander à moi si je vais travailler pour Def Jam.
C'est un label qui est déjà mythique.
C'est
dans
le label mythique.
Exactement.
Quand on parle de Public Enemy,
ouais,
c'est LL Cool J, c'est
Beastie Boys,
Enemy, c'est Beastie Boys, c'est Rush Management.
Run DMC.
C'est Run DMC, c'est Lil Cohen. Lil Cohen qui a créé ça, et avec Russell Simon, et qui est maintenant le patron de YouTube. Et j'ai dit, tu peux me demander à moi si je veux travailler pour le plus gros label de hip-hop.
Évidemment.
Et surtout, voir les artistes dont je suis fan. Parce que là, on parle pas de business, là.
Ouais, ouais.
On parle d'artistes dont je suis fan.
T'es juste un passionné, là, qui touche du doigt.
Exactement. Ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Mais je vois des milliards de choses. Et donc, je signe, on arrive dans une réunion, et puis il me dit, il y a un album qui arrive, Regulate. Je l'écoute, je fais extraordinaire. Première réunion promo. Mais ils ont dit, si t'arrives tous les mardis, t'avais une réunion promo. Vous avez quoi à dire? Moi, j'arrive, voilà, bonjour, Angelo, Warren G, Regulate. Là, tout le monde me dit, le rap, Regulate. Je dis, les gars, c'est beaucoup plus que du rap. Écoutez le titre. Je me rappelle, à l'époque, on me disait que ça marcherait pas. 100 000 albums vendus. Un carton.
En France. Voilà.
100 000 albums vendus en France.
Ouais.
Et c'est passé partout. Et voilà, ça a été un des premiers cartons de rap. Et après, on a sorti Redman, Method Man.
Ouais.
Et il y a la suite qui a été faite. Mais encore une fois, que ce soit à l'époque, quand je signais pour me faire plaisir, ou que ce soit maintenant à The Live Nation, le plaisir et la passion avant tout.
Bon, je pense qu'on écoute une artiste qui, elle aussi, tu connais, qui a sorti un album il y a quelques semaines. Moi, maintenant, c'est Aya Nakamura, qui fera trois Stades de France.
Trois
Stades de France en 2026. Évidemment, au moins trois pour Aya Nakamura. On va écouter son morceau en collaboration avec Chainsy qui s'appelle « Dis-moi », extrait de son tout dernier album.
Ton avis, j'en fais mon goûteur. J'ai pas vibré dans cette aventure. Non. Quand je voulais, tu faisais de l'indisco. Tu continues en vrai, t'as tout gâché. J'attends pas de toi ton autorisation. Qu'est-ce que tu racontes entre nous? Je coupe le réseau. Garde la même énergie. S'il te plaît, oui, cette énergie. Mon mec ou mon ennemi. D'après tes actes, mon ennemi. Je me rappelle quand tu bombais avec moi. Je le constate, je dormais avec le diable. Tu te rends compte que maintenant j'ai trop d'aura. Je n'ai pas la langue dans ma bouche. I don't feel like you know how to love again, but I don't doubt you. I stick around just for you. No matter what you say, I'll do. Look at all the things I do. I give you loyalty and that's my truth. But it's never enough for you. Now baby, who hurt you? Who hurt you? Don't forget that I've been hurt
C'était Aya Nakamura avec Chensi pour le morceau Dis-moi.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et on est avec Angelo Gopé, boss de Live Nation France, jusque 23h. Et Angelo, donc tu es devenu boss de Live Nation en France il y a 16 ans, c'est ce que tu disais. Et je crois que tu as été recommandé via le manager d'un rappeur un peu important dans l'histoire du rap. Je crois, c'est lui.
See how to do it. Check. Yo, I spit that other shit. That's a nice motherfucker shit. Fed time following me around. Do you cover shit, nigga? You bear money. I'm all year money. I'm popping, you ain't gotta count it. It's all live.
Ça, c'est un extrait de Imaginary Players de Jay-Z, qui est peut-être mon morceau préféré de Jay. Donc, la légende raconte que c'est...
30 octobre 2009, mon téléphone il sonne.
Tu te souviens du jour exact?
Ah oui, 30 octobre, téléphone il
sonne. T'es où?
Chez moi, chez le soir. John Minnelli, qui est manager de Jay-Z à l'époque, il me dit, Jay, il veut te voir. La semaine prochaine, le 4 novembre, concert Elizabeth Hall à Londres.
Jay veut te voir. Ouais. C'est ça la phrase.
Jay veut te voir. Ok.
Incroyable.
On t'invite, viens. Ok. Moi, j'y vais. Et avant de dîner, on se retrouve là à table avec les gars de Live Nation. Angelo, Live Nation, on discute. Tout se passe bien. Après le concert, on va dans les loges voir Jay-Z. Donc, il y avait Jay-Z, Gwyneth Paltrow.
Tu l'avais déjà rencontré ou
pas, ouais, avant, ouais.
Ok, tu le connaissais déjà.
Gwyneth Paltrow, on a fait des concerts avec lui.
Ok.
On a fait le concert avec Common.
J'étais là au Zénith. Ouais. Il y avait Cool Kids, Common, ouais. Jay-Z. Il y avait les Cool Kids. J'étais là au Zénith de Paris, vers du 2008-2009.
Ou 2007 peut-être.
Peut-être, enfin, ouais, dans ces eaux-là. Okay.
Et on se voit après Chris Martin, Gwyneth Paltrow, tout le monde dans les loges.
Ouais.
Et là, ils disent Live Nation, Angelo, Angelo, Live Nation. Bah, et ils disent, mais par contre, bah, je veux dealer, je veux ma part, hein, c'est normal. Je comprenais pas ce qui se passait au départ et il restait que deux personnes de Live Nation.
Tu savais que c'était pour Live Nation ou pas du tout? Tu savais juste qu'ils voulaient te voir? Ouais, tu savais pas.
Bah, pas du tout. Pas du tout.
Okay.
Puis moi, j'avais déjà une pote, j'avais créé, donc j'étais déjà producteur. Et il me dit, bah écoute, on t'a vu avant, tu passais un test, finalement une interview, tu l'as pas su, mais finalement, on veut te prendre chez Live Nation.
Ok.
Ok. Bon. Okay. L'histoire magique. Et j'ai dit oui tout de suite.
Évidemment.
Parce que tu vois, on part de zéro, et encore une fois, tu vois, je suis un entrepreneur dans l'âme, donc j'adore les challenges. Donc oui, arriver chez Live Nation, alors qu'on nous décriait, que les gens disaient, mais c'est un black à la tête de Live Nation, alors que normalement, c'est que des grandes entreprises, dans 6 mois, ça va arrêter. Et on était 3 au départ, et maintenant, on est 140.
Mais t'as vraiment senti ça, cette défiance par rapport à ton profil, quand t'arrives à la tête et à l'antenne française d'une boîte comme ça?
Mais mon profil, il est décrié depuis que j'ai commencé dans la musique. Enfin, t'imagines, la musique aujourd'hui, je reviens sur l'histoire. On veut former des techniciens pour rentrer dans la filière musicale. La culture et la musique, rien de plus discriminatoire. C'est le pire endroit d'entre-soi que tu peux avoir.
Ouais.
Donc depuis que j'ai commencé dans le rap, on dit, mais ce gars-là, le rap, il doit arrêter le lendemain où il est né. Et pendant toutes les années, on m'a dit, non, le rap va s'arrêter, le rap va s'arrêter. Le gars, il a produit I.A.M. d'NTM, mais ça va s'arrêter. Et puis I.A.M., ça va s'arrêter. Et NTM, ça va s'arrêter. Et Kenny West, ça va s'arrêter. Et puis finalement, ça a explosé. Donc oui, t'imagines. Aujourd'hui, Live Nation, tout le monde parle de la réussite des Américains. Personne dit que c'est un petit gars des quartiers qui est black, qui a réussi. Et ça, tu n'entendras jamais. Et ça, c'est la discrimination.
Alors, puisqu'on parlait de Jay-Z, généralement dans l'émission on demande des recommandations qui arrivent un peu plus tard, mais là je voulais les faire venir un peu plus tôt, puisque dans les recommandations t'as cité Watch the Throne, qui est donc un album commun sorti en 2011, un album commun entre Kanye West et Jay-Z. Je crois que tu voulais en parler. J'ai eu la chance moi aussi d'être, évidemment, d'écouter l'album, mais d'être à un des concerts donnés à Paris. Écoutons un extrait peut-être de No Church in the Wild. Get the hell up out your seats. Preach. Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a guy? What's a guy to a non-believer? Avec Frank Ocean qu'on entend, qui est en collaboration sur ce morceau. D'ailleurs, c'est un clip qui avait été clippé. Enfin, le clip a été clippé par Romain Gavras, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi tu voulais parler de Watch the Throne? Pour moi, c'est le plus grand concert que j'ai vu de ma vie. Et je sais qu'on est extrêmement nombreux à penser ça, parce que c'était une expérience unique. Voilà, je te laisse prendre la main.
C'est un album aussi qui est exceptionnel. Et il faut savoir que Niggas in Paris a été créé, donc Beyoncé vient faire de la promo à Paris pour son album.
Ouais.
Ils sont Meurice.
Ils étaient tout le temps là-bas, je crois. Ils étaient tout le temps Meurice. Ouais.
Et Jay-Z et Kanye West vont dans leur suite au Meurice, écrivent et enregistrent Niggas in Paris. Le titre sort, incroyable. L'album complètement fou, les clips complètement dingues. Ouais. Et on travaille sur ces concerts en disant mais bien sûr qu'il faut le faire. On fait 4 concerts à Paris.
Ouais.
En Europe, c'était l'endroit où il y a le plus de concerts. Et ils jouent ce titre. Et le dernier soir, je crois qu'ils font 13 fois.
Je crois que c'est ça, ils battaient le record. Parce que c'était devenu quelque chose.
En Angleterre, c'était 10 ou 11 aux États-Unis. Et ils sont arrivés à 13. Donc tu te dis, tout ce chemin parcouru de ce titre écrit au Meurice. Moi, j'étais là parce que j'étais en rendez-vous pour Beyoncé pour la promo de l'album. Donc, l'enregistrement au Meurice, l'album qui sort, ils sont là devant toi. Et cette reconnaissance de Paris, cette reconnaissance du rap, et du rap en France, et aussi du rap français, puisque il faut savoir que la France, c'est le pays numéro 2 au monde au niveau du hip-hop et du rap. Cette reconnaissance-là, elle est hyper importante, parce qu'aujourd'hui, ça fait légitimer tout le travail que moi, je fais depuis des années. C'est se dire aujourd'hui que les deux plus grands artistes du moment viennent à Paris, font un titre sur les Niggas in Paris, et tout le monde les reconnaît, tout le monde est là, et pas que les rappeurs. Et ça a été un moment qui a été assez extraordinaire, puis de le faire et de le refaire, et qu'il n'y ait pas une once d'énergie en moins entre le 1 et le 13. C'est juste ça qui était...
C'était fou.
C'était...
Et puis, il faut expliquer, parce qu'il jouait ce morceau, effectivement, 8, 9, 10, 11, 12 fois, mais ça arrive après 2 heures de concert. Ouais. Parce que moi, j'y étais. Les gens qui n'étaient pas là, ils peuvent dire, oui, mais c'est une arnaque, ils jouent 13 fois le même morceau. Non, non, c'est une performance, parce qu'ils ont joué pendant 2 heures tout leur répertoire, donc ce qu'on peut connaître de Kanye, de Jay-Z, et après, ils font une performance. Donc, c'était
de
vraiment...
leur part et du public, parce qu'il faut savoir qu'à chaque début, ils demandent aux gens de s'écarter.
Exactement.
De s'écarter. Et quand le morceau est commencé, les gens, donc même les gens dans la fosse, pendant une heure, ils sont écartés, ils ont couru, ils ont sauté. Donc voilà, je trouve que cette image-là, cette image hyper positive, et c'est pour ça que ce titre-là, il m'a marqué, parce que c'est l'album, c'est ce qu'ils ont fait à Paris et c'est les concerts après.
Bon, ce qui t'a marqué, écoutons un extrait de ce morceau. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Ball so hard, that she crack, that she crack. Ain't it Jay? Ball so hard, what she order, what she order. Fish filet, ball so hard. Yo, whip so cold, so cold. This whole thing, ball so hard. Like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm my friends. En introduction du morceau, un sample de Will Ferrell, issu d'un film, j'ai même oublié le titre du film d'ailleurs, mais c'est complet, tout était iconique. C'était vraiment un moment dans la pop culture, quoi, vraiment.
La DA.
La DA, très baroque de l'album. Bon, et puis un album aussi qui était sorti en exclu, je crois, sur iTunes. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui était déjà très, très différent dans la manière même de vendre l'album. Angelo Gopé était avec nous jusque 23h. Angelo, car tu connais bien la musique évidemment, mais aussi le live, les concerts, c'est ton métier depuis longtemps maintenant. Je t'énonce des phrases, tu me dis si elles sont vraies ou fausses. Un artiste qui explose sur TikTok peut remplir directement un zénith.
Faux.
Pourquoi ?
C'est pas juste ça. Il va être beaucoup écouté, les gens vont peut-être avoir envie, mais après il y a autre chose, il n'y a pas l'explosion de TikTok. Il y a quand même la vibe que derrière l'artiste, son attitude. C'est pas... Maintenant on dit que les gens vont au concert parce qu'il y a un titre TikTok. C'est le cas, mais il n'y a pas que ça. Il y a des artistes TikTok qui ne marchent pas en concert non plus. Donc ce n'est pas une réalité.
Et puis est-ce qu'un jeune artiste doit aussi aller directement sur une grande salle ? Est-ce qu'il n'y a pas des étapes aussi ? Parce que même si t'as un album, c'est beaucoup un album qui cartonne, est-ce que c'est judicieux d'aller tout de suite sur une tournée des Zénith ? Imaginons que tu puisses la remplir, peut-être qu'il y a des étapes. Moi, je prends souvent l'exemple de quelqu'un comme Tiakola, qui a eu du succès assez vite et qui, je crois, t'as sûrement mieux suivi son parcours que moi, mais a pris le temps, en fait, est passé par un Olympia, et il a fait le Bercy presque tard par rapport à son succès, mais c'était génial.
Je suis entièrement d'accord avec toi, et non, on l'a vu sur Nekfeu. L'album sort, carton immédiat.
Ouais.
On avait une tournée de salle de 1000 à 1500 en automne-novembre. Tout le monde s'est dit, mais est-ce qu'on l'a fait ou pas ? Non, il faut la faire.
Ouais.
On doit passer par cette étape-là parce qu'elle est importante aujourd'hui. On doit accompagner les gens sur des petites salles, et après des grandes salles, et après des plus grandes salles, puis après, pourquoi pas des stades ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un parcours au niveau des artistes qui est important. Avant, on faisait une petite salle, deuxième album, on faisait une cigale, troisième album, on faisait un Olympia, quatre albums, on faisait un Zénith, et rarement, on faisait la Corarena. Ouais. C'était Michel Sardou qui faisait la Corarena. Donc, tu vois, on voyait ça très loin. Et maintenant, on va très vite, tout de suite, sur des élites ou des Corarena. Et je pense que c'est bien, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est quoi l'étape d'après, sur quel salon on va, comment on fait. Et je pense que la proximité avec le public, elle est importante parce qu'on se doit de rendre aujourd'hui au public, ce que le public nous donne. Parce que s'il n'y a pas de public aujourd'hui, il n'y a pas d'artiste.
Les tournées de stade tuent les festivals. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors, on va faire un calcul qui est très simple.
Ouais.
L'année dernière, on a fait 10 concerts au Stade de France à peu près. Il faut savoir que quand tu fais des concerts au Stade de France, type Beyoncé, Blackpink, Stray Kids qui a eu lieu, ou Linkin Park, ou Imagine Dragon, t'as la moitié des gens qui viennent de l'étranger. Donc on va prendre 10 concerts fois 65 000 personnes, ça fait 150. Divisé par 2, ça fait 325 qui viennent de l'étranger. Il te reste 325. Sur les 325, t'en as 60% qui viennent de Paris. Ce qui fait 190 000 à peu près, voire 200. Il te reste 125 000. Donc aujourd'hui, 125 000 personnes qui vont avoir des concerts à Paris vont mettre en danger l'ensemble des festivals en France ?
Non.
Voilà. La réponse est simple.
Est-ce que tu penses que, tu sais, on a vu, en vrai, allez, je veux dire, depuis peut-être 6, 7 ans, 8 ans, des festivals qui ont une programmation beaucoup plus rap que dans le passé. Est-ce que tu penses que ça va changer ? Est-ce qu'on a eu un moment, un peu, tu sais, avec des festivals qui n'étaient pas et qui sont devenus full rap ? Je pense aux Ardentes, par exemple, qui est devenu un festival très prisé, avec, où tout le rap francophone va là-bas. Est-ce que tu penses que cette espèce de domination du rap, notamment sur les festivals, va un petit peu s'émousser ? Et que ça va être un peu plus diversifié dans les prochaines années ?
Ok. Tu veux rendre les gens tristes ?
Non, j'essaie de comprendre, parce que j'ai l'impression que ça va vers ça. Peut-être que je me trompe.
On ne va pas vers ça.
Ok.
Aujourd'hui, on a un cycle qui arrive sur une fin de cycle. On a été très dominant dans la musique hip-hop et urbaine pendant 10 ans. On se rend compte que maintenant, ça faiblit. Aux États-Unis, pour la première fois depuis 40 ans, aucun artiste rap sur le Billboard du mois de décembre.
Exactement. Ce qui a été un choc.
Ce qui a été un choc. On aura la même chose en France. C'est pas contre le rap, c'est le cycle de la vie. Les gens qui étaient jeunes, il y a des gens qui écoutaient du rap, ils sont en train d'évoluer. Mmh. Et donc, ils vont écouter autre chose. Donc, le rock va revenir, le reggae revient, la musique du monde va revenir. On a du reggaeton, de l'afro, on a de la K-pop. Donc, ce qui est normal. Donc, je pense que les festivals 100% rap, c'est bien. Mais ils vont aller vers d'autres choses aussi. Tu vois, les Ardentes, ils ont eu David Guetta, ils ont des DJ, il y a DJ Snake. Donc, on voit très bien qu'ils vont vers autre chose.
Donc, on est un peu d'accord. Donc, la programmation va sûrement être un peu moins rap.
Elle sera obligée d'évoluer, parce qu'on ne pourra pas être 100% rap. Mais ce que j'espère, c'est qu'elle sera 100% urbaine et qu'il y aura d'autres musiques, qu'il y aura d'autres artistes et que surtout, voilà, qu'on ait surtout de plus en plus de filles, parce qu'on voit les talentueuses filles qui arrivent. Et quand on est qui arrive, qu'elles soient de musique afro ou qu'elles soient de musique urbaine.
Je propose, Angelo, qu'on s'écoute un morceau. Un morceau, j'imagine, qui va être cher à ton cœur, puisque j'aime beaucoup Public Enemy. Ça a été un groupe important pour toi. D'ailleurs, tu l'avais mis dans tes recommandations. Je propose qu'on s'écoute un classique, Fight the Power, qui était présent notamment sur la BO de Do the Writing de Spike Lee. On s'écoute ça. Public Enemy, Fight the Power.
proud. I'm ready, I'm hype for some amp. Posting my heels on a piano stamp. Sample looks like you're looking for nothing but rednecks for 400 years if you check.
Don't worry, be happy.
It was the number one jam. Damn, if I said you could slap me right here. Get it.
Let's get this party started right.
Right on.
Come on.
What we got to say.
Yeah.
Power to the people, no delay. I'll make everybody see. In order to fight the powers that be. Let me hear you say.
Fight the power.
Public Enemy, Fight the Power, choix donc de notre invité du soir, Angelo Gopé.
Midi Maizy sur France Inter.
Alors Angelo, pourquoi Public Enemy? Pourquoi c'est aussi important pour toi?
Public Enemy arrive en 87 avec un album qui nous a bouleversés. On est dans le rap, on est dans le hip-hop, on est dans la culture, on est dans la danse. Et t'as toujours besoin parfois de morceaux qui viennent un peu fédérer tout le monde. Et il y a eu le premier morceau qui s'appelait Public Enemy No. 1, ouais, qui est sorti sur l'album. Et dans lequel on s'est reconnu tout de suite, parce que pour les gens, quand tu tagues le soir dans le métro, t'es un peu l'ennemi public. Et donc t'as ce titre-là qui vient et qui nous emporte. Parce que c'est rebelle, parce que c'est un peu rock, parce que... Et donc ça nous a emporté, puis après le second album avec Rebel Without a Cause.
Ouais.
Tu vois, donc du coup, bah, forcément ça nous parle. Donc on s'est tous retrouvés là-dedans, on s'est dans cet état d'esprit-là de guerrier, de se dire aujourd'hui qu'on était des guerriers du rap et du hip-hop.
Je crois qu'on a un extrait d'ailleurs de Public Enemy, Number One. Je crois que ça te fait plaisir de réécouter ça.
Mais je l'écoute encore.
Tu réécoutes encore régulièrement à Public Enemy?
C'est normal, tu sais, quand t'as un peu de... T'as besoin d'arriver le matin, tu te lèves, t'écoutes un petit Public Enemy comme le Fight the Power.
Bien sûr.
Je retourne souvent à Brooklyn, et on voit le magasin Spike Lee, donc c'était, voilà, pour nous c'est important.
T'as aussi une recommandation, c'est un livre, L'Empire, un livre qui est sorti récemment, donc qui plonge notamment dans les coulisses du rap et qui aussi raconte comment le rap est devenu une musique numéro 1, en tout cas la musique la plus populaire, avec tout ce que ça engendre de positif dans le business, dans le fait que les rappeurs sont devenus extrêmement populaires, qui génèrent beaucoup d'argent, et aussi dans le négatif, avec les dérives que ça peut entraîner. Pourquoi ce livre t'a interpellé?
Premièrement parce que je pense que le rap est devenu un véritable business et qui génère beaucoup d'argent, et ce que je trouve regrettable, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas rendu hommage à ceux qui ont fait le rap. Il y a des gens qui étaient au début dans le hip-hop, il y a des gens qui étaient dans le rap, ils l'ont pas fait pour l'argent, ils l'ont fait pour l'honneur, ils l'ont fait pour la passion, et on leur rend pas hommage. Et je pense que c'est important de le faire, et qu'on voit le business que c'est devenu aujourd'hui, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que sans ces gens-là, les gens aujourd'hui qui gagnent d'argent sur le rap n'existeraient pas. Et donc c'est pour ça que c'est important. Et deuxièmement, il y a le contre-biais du livre, on vient des quartiers. On sait très bien que personne n'a créé le rap pendant des années. Et on vient dire aujourd'hui, le rap est associé aux narcotrafiquants. Non, le rap est associé aux potes de quartier. Aujourd'hui, quand on est dans les quartiers, on ne regarde pas ce que fait son camarade. Il peut être banquier, il peut être comptable, il peut dealer. On est des potes de quartier à la vie, à la mort, et quoi qu'il en soit. Donc quand tu as un pote aujourd'hui qui dit « je peux t'aider à faire un album », les gens se posent la question parce qu'au départ, personne ne veut faire du rap. Personne ne veut les aider à faire du rap. Donc tu as ces gars qui sont là et qui les aident. Après, bon, c'est donné ce que c'est, mais je pense qu'on stigmatise trop et on veut absolument lier le rap en disant voilà, le rap est lié aux narcotrafiquants, le rap il est lié au hip-hop, il est lié à des jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire de la musique, qui ont cette volonté de le faire, qui travaillent beaucoup, qui écrivent beaucoup et qui n'ont pas cette possibilité d'être enregistrés et d'être distribués. Là, ils ont eu, tant mieux. Après, il y a peut-être eu des dérives, soit, mais il faut reconnaître le rap aujourd'hui comme des rappeurs, comme des artistes, et pas comme des gens qu'on associe seulement aux narcotrafiquants.
T'as l'impression que malgré la victoire populaire du rap, le rap est encore mal vu, mal regardé. Toi qui justement, en plus, un poste de pouvoir, en tout cas, qui est aussi au centre de l'économie, qui est chevalier des arts et des lettres, etc. Donc, est-ce que t'as encore le sentiment, tu te heurtes encore à des remarques méprisantes, ou en tout cas, faites de méconnaissance vis-à-vis du rap?
Aujourd'hui, on stigmatise la banlieue. Donc tout ce qui peut être lié à la banlieue, aujourd'hui, on va stigmatiser. Je pense que c'est pas normal. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique à stigmatiser. On doit aider les jeunes. Et malheureusement, ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est qu'on n'a jamais aidé les jeunes à réussir. Et là, le rap, il a été autodidacte, il a réussi, on stigmatise. C'est pas normal. Il y a d'autres choses qu'on stigmatise et qui réussissent dont on ne parle pas. Aujourd'hui, on doit accompagner les jeunes. On doit leur dire, on va vous aider à réussir. Pendant 40 ans, on a aidé les jeunes à s'en sortir. Mais les jeunes, ils veulent aussi réussir. Mmh. Aussi, ils veulent une place. Aussi, ils veulent réussir. On n'y arrive pas. Donc je pense que ce qu'on raconte sur le rap, c'est un peu... Et c'est frustrant, je veux dire, le gars des quartiers qui dit « on n'est pas aimé, on réussit jamais ». Si, on n'est pas aidé, on réussit jamais. Si moi, j'ai pas le rap, jamais j'aurais eu accès à Circula. Si moi, j'ai pas un gars comme Jay-Z, vous en dire qu'il s'est fait de Live Nation, jamais j'aurais été à la tête de Live Nation. Donc, tu vois, c'est important de se dire qu'on a un rôle à jouer, qui est hyper important. Tu vois, en plus, j'ai aussi le chevalier de l'Ordre et du Mérite.
Oui.
Pour ma capacité à avoir aidé culturellement, socialement, la France. Et moi, pour moi, c'est important que je parle de transmission, c'est comment on va aider les gens aujourd'hui à réussir, comment on va aider les jeunes à s'en sortir, comment on va aider les jeunes rappeurs à continuer leur musique, peut-être qu'ils vont produire d'autres musiques, peut-être qu'ils vont produire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Parce que si jamais on se dit, dans 4 ans, 5 ans, il n'y a plus de rap, ils font quoi? Ils vont vivre de quoi? Ils auront fait quoi de leur argent? Est-ce qu'ils l'ont investi quelque part? Est-ce qu'on les a accompagnés? Qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas de rap comme que du bling-bling et que de la musique qui réussit. Ce sont des jeunes, et beaucoup de jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain? Et comment on les accompagne pour qu'eux aussi permettent à d'autres jeunes de réussir?
Merci Angelo. C'est l'heure de la question qui tue. Bah, Angelo, je vais y aller direct. Quel est pour toi le ou la plus grand performeur, performeuse live actuelle? Dans tous les concerts que tu vois, toute l'année, qui est la personne la plus impressionnante?
Jay-Z.
Ah ouais?
Jay-Z.
Moi, j'aurais dit sa femme, j'aurais dit Beyoncé. En tout cas, ça reste chez des Carter, quoi qu'il arrive.
Ça reste...
C'est eux.
Tu sais, on se rend pas compte. Jay-Z, il va en studio, il écrit pas ses textes.
Tout dans la tête, effectivement. Comme Biggie à l'époque.
Jay-Z, il écoute une musique, il dit « Mettez-moi dans la cabine », et il fait son titre. Sur scène, c'est pareil. Il a une espèce d'instinct. Tu vois, quand on fait les répétitions avec Beyoncé, c'est lui qui regarde, c'est lui qui voit, échange des choses. Et moi, je dois voir quand il fait ses concerts.
Il est très impliqué dans la DA.
Toujours.
Ouais.
Toujours. Mais tu vois, mais les concerts qu'il a fait, Jay-Z, c'était le premier qui a mis des musiciens, c'est le premier qui a apporté. Il a apporté un truc différent. Et franchement, ce sera toujours le numéro 1. Après, il y en a d'autres qui arrivent et qui sont très, très forts. Mais je pense que c'est comme je dis par rapport au hip-hop. À un moment donné, il faut savoir reconnaître ceux qu'on fait de la place aux autres. Ceux qu'on permet aujourd'hui d'avancer. Parce que quand on a fait Watch the Throne,
ouais,
au Stade de France, ils ont fait une tournée aux États-Unis. Et ils ont fait 2 dates en Europe et uniquement en France. Ce concert-là, le fait d'avoir fait 2 dates à Paris, de On the Run avec Jay-Z et Beyoncé, c'est le couronnement de tout ce qui s'est passé avant. Et pour lui, quand
c'est la tournée commune. Tout à fait, ouais. Jay-Z, Beyoncé.
Quand il est sorti de scène, il a pris sa casquette, il me l'a mis sur la tête, il a fait We did it. Et ça venait, quelque part, tu vois, sceller tout le parcours qu'on avait depuis avant. Les salles de 1000, de 2000, de 3000, de 4000, le concert au Zénith, tout ce qu'on a fait, les concerts à l'Accor Arena quand il est venu après New York, etc. Un carton. Donc, je pense que quelque part, c'était un espèce d'aboutissement, et pour lui, et pour moi, et pour le rap. Et je pense que là, le rap trouvait enfin une manière de paraître autrement qu'une musique de ghetto.
T'envoies souvent des SMS à Jay-Z?
Ouais, pendant un match de basket. Je lui dis, t'as regardé Wemby ce week-end quand même?
Purée, quelle vie. Bon, merci beaucoup Angelo, merci beaucoup. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On rappelle donc que tu es le boss de Live Nation France. Il y a le Midem évidemment qui arrive prochainement, et la grosse actu, c'était le rachat de la Défense Arena, et puis énormément de concerts qui arrivent en 2026. Merci beaucoup vraiment d'avoir été là, d'avoir été aussi généreux. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert, à la technique ce soir c'était Jérôme Ragano et David Didoué Black. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous aurons Magla dans l'émission. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.